Je vous invite à prier avant de lire dans les Écritures. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, l'espérance et l'amour, toi qui es notre Dieu, nous te prions. Que ta parole touche notre cœur. Que ton esprit parle à nos esprits. Que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Nous lirons ce matin deux textes qui sont deux des textes proposés à la méditation des Églises aujourd'hui. Le premier que nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, les versets 21 à 27. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie ? Ou bien, que donnera un être humain en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Et puis le texte sur lequel portera plus particulièrement la méditation de ce jour, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, seulement deux versets. Mais quels versets ? Les versets 1 et 2 de Romains, chapitre 12. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte logique et raisonnable. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Au commencement est la compassion de Dieu. Sur cette conviction de sa foi, l'apôtre Paul nous invite à une révolution, un changement radical de référence, de pensée et de vie, de foi et de comportement, de point de vue et de perspective. Cette divine compassion, ou divine miséricorde selon d'autres traductions, Paul l'a déployée dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, avec différents tableaux, dans différents domaines théologiques, christologiques et selon différents langages. Et c'est appuyé sur cela, sur cette conviction de la compassion de Dieu première, qu'il commence au chapitre 12, la seconde partie de l'Épître. La compassion de Dieu pour l'humain est à l'origine à la base, au fondement de l'existence croyante et ses conséquences que Paul va expliciter dans les chapitres suivants. Je vous exhorte, mes frères et sœurs aussi, bien sûr, au nom de la compassion de Dieu. Les deux versets que nous avons lus représentent ainsi la charnière de l'épître entre la première partie et la deuxième, et ils rendent compte également de la charnière de l'existence de quiconque a découvert et reçu la compassion divine. Deux versets, c'est quand même très peu de choses, et pourtant l'existence entière peut se dérouler à partir de là. La compassion de Dieu engage à offrir son corps en sacrifice vivant. Autrement dit, c'est Paul qui le dit, la compassion de Dieu engage à un culte logique et raisonnable. Offrir notre corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce ne sont peut-être pas les termes que nous emploierions le plus spontanément pour dessiner notre existence. Un culte logique et rationnel, ça nous conviendrait peut-être un peu mieux. Et puis en même temps, sacrifice, culte, ce vocabulaire particulièrement, entièrement religieux n'est pas tellement celui du quotidien de notre vie, et surtout sacrifice, hein, n'est-ce pas ? Et puis comment articuler la notion de sacrifice à celle de la compassion de Dieu ? Ça laisse pour le moins perplexe, sinon franchement désarçonné, avec l'envie plus ou moins furieuse d'envoyer balader le verset, l'épître et l'apôtre. Pourtant, le protestantisme doit tant à Paul et à l'épître aux Romains. Et puis quand même, nous n'allons pas passer outre la compassion de Dieu, la divine miséricorde, la bonté, l'amour, la grâce. Offrir notre corps en sacrifice vivant, ce qui est le culte logique et rationnel, raisonnable. Je me demande si Paul n'a pas eu un petit sourire en écrivant ces deux formules équivalentes, déjà par satisfaction d'avoir pu écrire en si peu de mots le sens de l'existence humaine croyante, c'est quand même pas si évident, et puis peut-être aussi pour encourager de tout son cœur ses lecteurs romains à interpréter ces quelques mots. Puisque la compassion de Dieu est au commencement, ce que Dieu attend de nous n'est certainement pas la souffrance et la mort. La compassion n'implique ni courroux, ni vengeance, ni rétribution. Elle rend proche, elle prend soin, elle accompagne, elle soutient, elle encourage. La compassion ne génère ni violence, ni compte, ni soumission, ni culpabilisation. Elle relève, elle pardonne, elle fait confiance, elle espère. La compassion, c'est ce miracle qui nous fait vivre, sans lequel l'existence glisserait, sombrerait dans l'idolâtrie, le désespoir ou le fanatisme. C'est pourquoi le sacrifice mentionné par Paul est sacrifice vivant. Et cela change tout. Non pas un sacrifice qui conduit à la mort ou à la privation ou à la réduction de la vie, mais une dynamique pour la vie, par laquelle la vie est célébrée comme témoignage de compassion, de la compassion qui la fonde. Et c'est aussi en cela que le sacrifice vivant est sain et agréable à Dieu. Et puis il faut aussi se souvenir que dans la Bible hébraïque, le sacrifice n'a jamais pour but d'apaiser la colère de Dieu. Dans la Bible hébraïque, un sacrifice est offert pour quatre objectifs selon des modalités différentes, selon les circonstances. Le sacrifice le plus important, c'est le sacrifice d'action de grâce. Une autre catégorie, Ce sont les sacrifices qui représentent une invitation adressée à Dieu. On lui offre un repas afin que Dieu vienne parmi son peuple et le bénisse. Ou alors, le sacrifice vise à éliminer le péché ou l'impureté, pas le pécheur ou la pécheresse, ni l'impur, afin que, justement, l'humain pécheur ou impur retrouve sa place parmi son peuple. Ou aussi, le sacrifice est prescrit pour attester que Dieu est l'ultime propriétaire de toute chose, notamment lorsqu'il y a eu vol ou une malversation qui a causé du préjudice au bien de quelqu'un. Dans la Bible hébraïque, le sacrifice n'est jamais accompli au détriment de l'être humain, mais toujours à son bénéfice. Et bien sûr, jamais un être humain n'est sacrifié. Lorsque Paul choisit ce mot, il ne l'investit pas de la signification que lui donne le temple de Jérusalem, ce que je viens de vous dire. Il ne l'investit pas non plus du sens des multiples sacrifices du culte romain, de la religion romaine, que connaissent particulièrement bien ceux à qui il adresse son épître. Paul n'investit pas non plus ce terme avec le sens qui lui a été donné bien postérieurement, plusieurs siècles après Paul, l'interprétation de la mort de Jésus comme sacrifice expiatoire pour le péché du monde, interprétation qui n'est pas biblique. Et puis de plus, c'est notre corps qui est à offrir en sacrifice vivant. Le corps physique, le soma en grec. Mais notre corps physique, c'est bien plus qu'un assemblage d'os, de chair, de sang, d'organes. Il représente, au-delà de sa matérialité, notre être au monde. Notre corps, c'est ce qui nous fait être présents dans le monde, ce qui nous inscrit en tant que vivants sur la terre et en relation avec d'autres vivants. C'est avec notre corps que nous sommes en relation, avec nos sens, avec nos capacités de parole. Tout cela, c'est l'affaire de notre corps. Et lorsque notre présence au monde, lorsque notre être au monde est fondé sur la compassion de Dieu, compassion pour tous, inconditionnellement et malgré tout, eh bien notre vie est relancée en vie confiante et bénéficiaire de la confiance de Dieu, en vie tournée vers autrui. Parce que la compassion de Dieu n'est pas un gain pour le seul et propre intérêt de celui qui en bénéficie. La compassion de Dieu, c'est la source d'une dynamique relationnelle nouvelle par laquelle le monde change et change en mieux. Le corps offert en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, c'est l'être humain habité par la puissance de vie qu'est le Christ, puissance de vie qui vient de Dieu. C'est ce que Jésus dit à ses disciples d'une autre manière. Qui veut sauver sa vie, son âme, la perdra. Mais qui perd sa vie, son âme, à cause de moi, la trouvera. Si nous cherchons en nous-mêmes la force de vivre, la raison de vivre, la source de vie, nous ne la trouverons pas. Nous ne réussissons pas à vivre par nous-mêmes, sauf en sacrifiant d'autres vies, ou en nous débarrassant de toute compassion, ou en nous illusionnant de perfection, d'autonomie et d'une conception de liberté qui n'est pas la vraie liberté. Mais alors dans ce cas, est-ce que c'est vraiment vivre? Quant au culte logique et raisonnable, ce n'est pas plus que le sacrifice vivant, une cérémonie selon un rite bien codifié. Ce culte équivalent au sacrifice vivant, c'est cette existence humaine fondée sur la compassion de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur la confiance de Dieu, sur la confiance en Dieu. Une existence transformée, une personne transformée par la compassion de Dieu et se laissant faire, se laissant travailler par la compassion, par la grâce qui produit la reconnaissance, l'espérance et la confiance. Il s'agit d'en être conscient et de le désirer profondément et d'y veiller et d'y travailler soi-même pour se laisser travailler par cette compassion, d'à la fois être sujet et objet, avec en même temps une part passive et une part active, recevoir et agir, une sorte de voie moyenne en quelque sorte, pour le dire en termes de grammaire et de conjugaison. Mais cela ici, et cela ici, voie moyenne, ne signifie surtout pas voie médiocre ou voie médiane. C'est une voie de gratitude et d'engagement. C'est pourquoi Paul poursuit, pour faire comprendre ce que sont le sacrifice vivant et le culte logique et raisonnable, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le verset 2 éclaire le verset 1, affirmant que le sacrifice vivant et le culte logique et raisonnable échappent à la mainmise de tout système religieux, puisqu'il ne s'agit pas de pratiques religieuses, mais d'engagement quotidien de la vie de tous les jours. Il s'agit de la vie ordinaire, portée par la confiance, la reconnaissance, l'espérance, et plus par le souci de soi, ni par le rapport à un sacré défini et contrôlé par une religion. Une telle transformation de la personne correspond à une déconformisation, à une non-conformité au monde, à un anticonformisme évangélique dont Jésus de Nazareth est le modèle par excellence. Les récits des quatre évangiles donnent à lire la proximité délibérée de Jésus avec celles et ceux qui sont repoussés dans les marges, celles et ceux qui sont hors normes, celles et ceux qui sont non conformes par rapport aux règles religieuses et sociales. Et ce faisant, Jésus suscite des transformations radicales. Jésus est un non-conformiste, non par principe, mais parce qu'il incarne la compassion de Dieu, parce qu'il est, lui, l'amour et la grâce de Dieu donnée à chacun inconditionnellement. Parce qu'il est le Christ de Dieu, il refuse ce passage de la vie à la mort, celui qui est le passage biologique, mais qui s'impose dans tellement d'autres domaines de l'existence humaine, passer de la vie à la mort, mourir. Personne n'y échappant, cela devient comme une fatalité d'existence. Jésus, lui, il fait passer de la mort à la vie, dans l'autre sens. En cela, il est non-conformiste. Il fait passer de la mort à la vie les lépreux, les paralysés, les possédés, les prostituées, tous celles et ceux qui sont exclus. Il ouvre le passage de la mort à la vie en ne cédant jamais aux simplifications, aux essentialisations, au retour en arrière, ni à la lettre de la loi. Il ouvre le passage de la mort à la vie en ne se laissant influencer par aucun déterminisme, aucune assignation, aucune sécurité, tout ce qui, dans le monde, conforme et confine les êtres humains selon leur identité nationale, leur appartenance religieuse, leur place sur l'échelle sociale, leur mode de vie, leurs caractéristiques personnelles. Ainsi, à Pierre qui lui reproche d'annoncer sa mort prochaine, parce que quand même, le Seigneur ne peut pas être arrêté et être mis à mort, c'est pas possible. Jésus répond sèchement, « Va-t'en derrière moi, Satan !» Non que Jésus identifie Pierre à Satan. Mais Pierre, en disant ce qu'il a dit, assigne à Jésus une définition de Seigneur qui ne peut pas comporter l'échec et encore moins la mise à mort. Pierre voudrait, et sans en être conscient, opérer une division. Et je rappelle que Satan signifie le diviseur. Le Satan, c'est le diviseur. Pierre voudrait séparer Jésus de la divine compassion qu'il révèle et incarne. Mais la compassion n'a pas d'armes. La compassion ne peut pas faire pression. Elle ne peut pas s'imposer. Et oui, elle peut susciter de la violence qui veut et qui peut la réduire. Le Seigneur de Pierre est assez conforme au modèle humain du pouvoir alors que Jésus entrera à Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Pierre n'entend pas encore, que la compassion de Dieu est telle que même la mort de Jésus n'y mettra pas fin. Il y a tant d'opinions, de croyances, de convictions, de manières de vivre. Chacun peut être le conformiste pour les uns et anticonformiste pour les autres. Mais la non-conformité à laquelle Paul appelle les Romains, la non-conformité de Jésus-Christ, concerne ce qui fonde l'être. Et elle se tient, cette non-conformité, à la compassion inconditionnelle et gratuite de Dieu envers chacun et envers tous. Ne soyez pas conformes à ce monde-ci. Paul aurait pu écrire « Soyez compatissants en réponse à la compassion que vous avez reçue ». Alors le regard sur soi-même et sur autrui n'est plus un regard de jugement, de comparaison, d'évaluation. Et le rapport à autrui et au monde n'est plus un rapport régi par la domination ou la soumission. Et l'intelligence alors est renouvelée, rafraîchie, rajeunie. L'intelligence avec toutes ses dimensions de regard, de pensée, d'interprétation, de décision, de relation, est alors capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, c'est-à-dire ce qui répond, ce qui correspond à la volonté de Dieu, une volonté de vie abondante et de bénédiction inlassable. La volonté de Dieu n'est pas une volonté qui contraint, qui soumet, mais une volonté qui redresse et qui met au large. Et la compassion est une forme éminente de cette volonté divine. Alors puissions-nous en vivre aujourd'hui et chaque jour. Amen.